Bienvenue dans cette toute première émission 2026 des Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G. Toute l'équipe du Plantis vous adresse ses vœux pour cette nouvelle année, une année à vivre au rythme de la nature. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et j'ai le plaisir de vous accompagner durant la prochaine demi-heure pour partir à la rencontre du laurier et de toutes les plantes qui partagent son nom. Car comme tous les vendredis pairs à 13h, le tiers-lieu Le Plantis vous invite à partir en nature, à la découverte de l'histoire des légendes, du mode de vie et des usages, des plantes sauvages. Quel plaisir de vous retrouver, même si en ce début d'année, la neige s'est invitée, nous empêchant d'enregistrer cette première de 2026. Quelques jours d'hiver où le silence, animé par le bruit feutré de nos pas, est venu nous rappeler que le rythme des saisons n'a pas complètement déserté nos campagnes. Après ce partage sonore, commençons donc en beauté pour parler des lauriers. Pour m'accompagner dans cette émission, nous écouterons la chronique culinaire « Enherbez-vous » de Marie sur l'utilisation du laurier en cuisine, la chronique « Jardiner avec les plantes sauvages » dans laquelle Arcandia nous invitera à aller à la rencontre du terroir, et enfin Marie, dans sa chronique « L'aquabulaire, les mots de la rivière », nous apprendra tout sur les bio-indicateurs. Un programme riche que nous allons découvrir maintenant. Restez bien à l'écoute sur Radio G 101.5 FM. Sur la trentaine de plantes répondant au nom de laurier, nous nous intéresserons au plus connu et au plus célèbre de tous, le laurier noble ou laurier vrai, originaire du bassin méditerranéen, dont les feuilles parfumées agrémentent de nombreux plats. Le laurier noble est une espèce très ancienne, endémique des boisements du bassin méditerranéen, il y a plus de 10 000 ans, une époque où le climat est plus humide. Depuis, il est en régression, car sa croissance demande une pluviométrie abondante qui fait aujourd'hui défaut dans ces régions. Plutôt frileux, il s'adapte à tous les types de sols et supporte vaillamment les fortes bourrasques, ce qui a conduit à sa propagation sur la face atlantique et tout particulièrement en Bretagne. Son feuillage coriace ne l'empêche pas d'être attaqué par les cochenilles par temps sec, car ces dernières apprécient particulièrement les tendres jeunes feuilles au vert plus clair. Pour limiter les attaques et les pertes par transpiration, le laurier s'est adapté par le durcissement de son feuillage, ce qui lui demande beaucoup d'énergie. Cette stratégie fait qu'il ne pousse pas très vite. Ceci ne l'empêche nullement d'atteindre 8 à 10 mètres de haut à l'âge adulte si on le laisse pousser, bien entendu. Tout en parlant d'adaptation au sol et au climat, je vous invite à écouter Marie dans sa chronique « L'aquabulaire, les mots de la rivière » pour nous faire découvrir ce que sont les bio-indicateurs. When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river.
Dis Marie, c'est quoi un bio-indicateur ?
Quand on parle des rivières et qu'on souhaite savoir si elles sont en bon état, si l'eau est de bonne qualité, on pense en priorité à faire des analyses d'eau et voir s'il y a des bactéries ou des polluants. Mais figure-toi que ça, c'est uniquement un constat au moment où on fait l'analyse. Le meilleur moyen de savoir si la rivière est en bonne santé tout le temps, c'est d'interroger ses habitants. On trouve tout un cortège d'espèces dans une rivière. Des algues composées d'une seule cellule qu'on appelle les diatomées, des plantes, des larves d'insectes, des coquillages, des petits crustacés et bien sûr des poissons. Certaines espèces ne peuvent vivre que dans des conditions bien particulières. Par exemple, l'écrevisse à pattes blanches, Ostropotamobius palipes pour son nom scientifique, n'aime que les petits cours d'eau naturels, bien frais et non pollués. Elle est très exigeante. Mais il ne faut pas la confondre avec les écrevisses américaines, qui quant à elles supportent quasiment toutes les pollutions. Dans un autre registre, la prolifération de tubex, un petit ver fin vivant dans les sédiments de la rivière, indique une pollution importante par la matière organique et un manque d'oxygène. On les retrouve en grande quantité quand les stations d'épuration fonctionnent mal, par exemple. Les poissons, quant à eux, peuvent donner, en plus des informations sur la qualité de l'eau, des informations sur le fonctionnement de la rivière. Connais-tu le chabot ? Cotus gobio est un petit poisson dodu ayant une grosse tête et de petites nageoires qui lui confèrent de piètres qualités de nageur. Si le cours d'eau a tendance à s'assécher régulièrement, il n'a pas vraiment de capacité à se déplacer pour sauver sa peau. Quand on trouve des chabots, c'est donc qu'il y a toujours de l'eau. Le brochet, Esox lucius, poisson bien apprécié des pêcheurs, a aussi une particularité qui lui permet de gagner le nom d'espèce bio-indicatrice, car sa présence nous donne des indications précieuses. Pour qu'il puisse se reproduire, il a besoin d'avoir accès en hiver à des frayères, des lieux de ponte, qui correspondent aux prairies inondées. La présence de brochetons nous indique donc que la rivière sort de son lit tous les hivers dans des zones où il y a de l'herbe. Et moi, il y a une espèce bio-indicatrice que j'aime particulièrement, c'est la moule perlière. Une petite moule d'eau douce, non comestible, qui donne parfois des perles. Et dans l'histoire, ça ne lui a pas rendu service, car elle a été largement recherchée pour ça. Mais ce qui en fait une espèce à part, c'est qu'elle n'aime que les endroits exceptionnels. Il faut que la rivière soit naturelle, fraîche, non polluée, pas abîmée, et en plus, il faut qu'il y ait des truites dans le cours d'eau. En effet, les minuscules larves de cette moule doivent se fixer aux branchies des truites pour grandir, et elles s'en détachent par la suite. À cause de toutes ces particularités, il ne reste que 80 petites rivières en France qui en soient pourvues. Grâce à l'existence de toutes ces espèces, on peut calculer des indices biologiques, c'est-à-dire donner des notes de bonne qualité aux rivières. Un peu comme à l'école. When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river.
Il faut savoir que les lauriers regroupent des espèces très différentes. Leur point commun semble être la forme de leur feuillage persistant et parfumé. Les botanistes ont choisi de nommer d'autres espèces végétales ressemblant au laurier noble, dont le nom latin et romain est laurus. Une trentaine de végétaux se nomment laurier, comme par exemple laurier palme ou laurier cerise, aussi nommé laurier amande, laurier du Caucase, du genre prunus. C'est la star incontestée de nos haies de jardin, souvent qualifiée de béton vert, au feuillage épais, vernissé et luisant, dont les glandes attirent les fourmis, dont les fleurs diffusent un parfum de miel et dont les fruits font le régal des oiseaux, mais peu digestes en revanche pour nos estomacs. Dans certaines régions, les feuilles servent à élaborer un apéritif à la saveur de Porto. Le laurier du Portugal, proche visuellement du laurier palme, est quant à lui très résistant à la sécheresse, avec une jolie floraison et des fruits non comestibles pour les humains. Le laurier rose, arbuste méditerranéen, éblouit quant à lui les massifs avec son éclatante floraison estivale dont il faut se préserver de la sève très toxique. Le laurier thym, autre arbuste méditerranéen, à la floraison hivernale, blanche, qui donne des fruits très appréciés des oiseaux et trouve sa place dans de nombreuses haies composées, favorisant la biodiversité. Les lauriers revêtent une grande importance et alimentent notre imaginaire, comme dans ce magnifique poème « Le laurier du Général Leif » ou « Général Leif » de Théophile Gautier, écrit en 1845. Dans le Général Leif est un laurier rose, gai comme la victoire, heureux comme l'amour. Un jet d'eau, son voisin l'enrichit et l'arrose. Une perle reluit dans chaque fleur éclose, et le frais émail vert se rit des feux du jour. Il rougit dans l'azur comme une jeune fille. Ses fleurs qui semblent vivre ont des teintes de chair. On dirait, à le voir sous l'onde qui scintille, une odalisque nue attendant qu'on l'habille, cheveux en pleurs au bord du bassin aux flots clairs. Ce laurier, je l'aimais d'un amour sans pareil. Chaque soir, près de lui, j'allais me reposer. À l'une de ses fleurs, bouche humide et vermeille, je suspendais ma lèvre et, parfois, ô merveille, j'ai cru sentir la fleur me rendre mon baiser. Cette émission consacrée aux lauriers est un excellent prétexte pour parler des plantes invasives. Au cours de mes missions de paysagiste, j'ai en effet constaté la diffusion et l'envahissement très rapide des parcs et des espaces boisés naturels par les lauriers palmes plantés dans les haies des jardins. Les oiseaux, friands de leurs fruits, les sèment au gré de leur déplacement. Au fil de leur propagation et de leur croissance, les jeunes pieds de laurier cernent peu à peu les autres arbres, les affaiblissant et provoquant leur chute. Dans les parcs, ces arbres sont très souvent abattus car considérés comme dangereux, laissant le champ libre aux vigoureux lauriers palmes. Il en résulte des boisements sombres au feuillage persistant, interdisant l'installation de végétation basse. Le même phénomène s'observe aussi avec le déplacement des lauriers nobles recherchant des climats plus humides. Alors, faut-il dans ces conditions les considérer comme invasifs ? La diffusion et la propagation des végétaux sur les continents terrestres est un phénomène naturel très ancien, inhérent au cycle de la vie. Les éléments naturels et les animaux ont favorisé, à un moment ou à un autre, la diffusion des espèces sur notre planète. Les humains, qui se sont déplacés au gré des bouleversements climatiques, ont eux aussi participé à ces migrations. Si bien qu'aujourd'hui, pour de nombreuses espèces bien connues, l'origine géographique se perd dans les méandres du temps et de l'espace, de sorte qu'il est impossible de leur attribuer une identité indigène quelconque. Ainsi, écrit Gilles Clément en préambule de son ouvrage questionnant sur les plantes envahissantes, pionnières ou simplement expansives. Pour une espèce végétale, un pays d'origine ne signifie pas grand-chose sur le long terme. Alors, plutôt que parler d'espèces indigènes, il conviendrait mieux, sans doute, de parler d'espèces adaptées au contexte de sol et de climat. Aujourd'hui, les mécanismes de changement climatique planétaire observés depuis le XIXe siècle sont largement attribués aux activités humaines. Associés à la pollution chimique massive et à la suppression des habitats, ils conduisent à une modification sensible de la composition floristique et des paysages qui mettront eux-mêmes sans doute des milliers d'années pour se stabiliser. Pour ne pas disparaître, les végétaux déploient beaucoup d'énergie et de ressources pour s'adapter à ces changements. On parle de coévolution. Il en résulte la naissance de nouveaux écosystèmes issus du brassage génétique, floristique, local et exogène. Il arrive parfois que certaines espèces venues d'autres contrées colonisent totalement les écosystèmes existants. Pour autant, ce phénomène entre au final très peu dans le phénomène de disparition des espèces locales, comparativement aux actions humaines. Aussi, s'obstiner à maintenir ou restaurer coûte que coûte les paysages d'origine semble une bataille perdue d'avance, car ces végétaux exogènes offriront des perspectives dans le futur pour établir un nouvel équilibre, en dépolluant les sols et l'eau, en procurant de nouvelles ressources alimentaires ou de matériaux. Car si nous souhaitons agir, il est plus facile de s'appuyer sur les dynamiques de la vie et sur les propriétés de ces végétaux pour corriger la cause des dysfonctionnements actuels. Il s'agit de la démarche employée par les paysagistes, faire avec plutôt que contre. Peut-être s'agit-il pour nous de faire confiance au génie naturel des plantes. L'avenir nous le dira. En attendant, il convient de mieux comprendre les dynamiques de ces plantes jugées envahissantes pour s'en faire des alliés. Cela signifie qu'intervenir doit revêtir du sens, comme par exemple maintenir des herbivores pour conserver des prairies ouvertes. Pour poursuivre sur l'acceptation des plantes sauvages, je vous invite maintenant à écouter Arcandia et sa chronique « Jardiner avec les plantes sauvages » pour parler juste à propos de ce qu'est le terroir.
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Aujourd'hui, je vais vous parler du terroir comme révélateur de paysages. En tant que bon français, chacun d'entre nous a déjà entendu parler de terroir. Nos vins, nos fromages et notre agriculture les subliment et nous ravissent de leur parfum. Mais savez-vous ce qui donne à nos terroirs toutes ces particularités de saveur ? Plongeons comme les racines de nos amis les plantes dans les profondeurs du sol et remontons le temps. À l'origine de tout sol, il y a une roche. D'abord nue, elle est doucement altérée par le climat, les bactéries, champignons, algues, lichens et plantes pionnières. Lentement, la matière organique s'y accumule et le processus chimique de dissolution de la roche en nutriments disponibles pour les plantes et les animaux suit son cours. Quand je dis lentement, je ne pèse pas mes mots. Il faut environ 100 à 400 ans de succession végétale pour former 1 cm de sol fertile dans un climat tempéré comme le nôtre. Durant ce très long processus qu'est la naissance d'un sol, la roche va y libérer son identité. Plus concrètement, elle libère dans le sol des minéraux et des éléments chimiques. Comme vous le savez, il existe plusieurs types de roches selon les régions, que nous retrouvons très souvent comme matériaux de construction dans l'architecture locale. En Anjou, nous admirons le schiste ardoisé sur nos toits, le tuffeau sur nos belles demeures et le grès qui façonne nos murs. Vous devinez que chacune de ces roches aux allures bien reconnaissables ont des compositions différentes. Chaque sol hérite de la roche mère sur laquelle il s'est formé, d'une composition chimique et d'une structure. Revenons maintenant au monde végétal. Tout bon jardinier sait que les plantes ont des préférences au sujet du sol. Certaines les aiment acides, d'autres drainants ou humides, ou encore riches ou pauvres. Nous veillons donc à ce que nos plantes soient dans les bonnes conditions pour s'épanouir. C'est évidemment de la nature que nous provient cette compréhension. Ainsi, en milieu sauvage, le terroir se révèle par des paysages très variés, allant des landes au sol pauvre jusqu'au sol des forêts profonds et riches. De notre architecture jusqu'à nos paysages sauvages ou agricoles, en passant par les matériaux locaux, la roche mère a laissé son empreinte dans tout notre paysage. Bon, malheureusement, l'usage de matériaux industriels, la mondialisation et les techniques agricoles conventionnelles ont tendance à supprimer du décor tout ce dont je viens de vous parler. À nous les maisons en parpaing, les clôtures en plastique et les plantes tropicales posées sur leurs lits de gravier blanc et noir. Nous devons aujourd'hui reconstruire nos racines profondément ancrées jusqu'à notre roche mère. Et pour cela, les plantes sauvages, en particulier les annuelles et les vivaces, sont de parfaites enseignantes. En laissant une place à la végétation sauvage dans notre jardin, nous laissons à notre terroir la possibilité de se manifester. C'est peut-être un des gestes écologiques les plus forts que nous puissions faire, à la fois pour rendre leur identité paysagère à nos régions, mais aussi pour soutenir la biodiversité. Car de ces plantes sauvages dépendent tout un cortège d'animaux qui se sont développés grâce et avec elles. Et bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'aller dans une jardinerie ou en milieu sauvage pour les trouver. Il suffit de leur laisser une place et les plantes parfaitement adaptées à votre sol maintenant germeront. Un sol peut contenir plusieurs milliers de graines en attente des conditions idéales pour germer. Laisser venir les plantes sauvages au jardin est donc la garantie pour avoir des plantes parfaitement adaptées à votre sol et aux conditions climatiques de votre terrain. Dans la prochaine chronique, je vous en dirai plus sur les plantes sauvages et les stratégies merveilleuses du vivant pour couvrir la terre de la végétation qu'elle mérite. À bientôt!
La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée.
Il est temps de faire une pause musicale avec Alain Bachung et son titre, justement nommé « Au pavillon des lauriers ».
Étorge-me-toi. Érudits m'abreuvent de leur fiole. À quoi c'est dû cette assiduité à sillonner sans répit ma Macédoine? À quoi c'est dû? Au pavillon des lauriers, il est tard pour se demander à quoi c'est dû ces lauriers. À quoi c'est dû ces chaluts qui n'entravent que l'océan? Au pavillon des lauriers, il faut voir à ne célébrer que l'insensé. Je veux rester fou. Derrière mes paupières filent des régates. Mes années-lumière sont pas des lumières, mais je veille sur un grain de toute beauté. Un grain de toute beauté. Au
tribu. À quoi sais-tu? Sais-tu des pachydermes? Ces alizés camisolés, à quoi sais-tu? Au pavillon des lauriers, il est tard pour se demander à quoi c'est dû ces corvées, à quoi c'est dû ces résidus d'amour aveugle. Au pavillon des lauriers, il faut croire qu'on a savonné la liberté. Je veux rester. J'adresse aux rivières des lettres de brume, des anniversaires, j'ai l'air dans la lune, mais je veille sur un grain de toute beauté. Un grain de toute beauté. À quoi c'est dû?
Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% nature de Radio G sur 101.5 FM, et nous partons à la découverte du laurier noble, aussi appelé laurier Apollon, car depuis l'Antiquité grecque et romaine, ses branches servent à confectionner des couronnes pour les vainqueurs. Par extension, ces couronnes s'appliquent à tous ceux qui obtiennent des succès publics. On prête aussi au laurier de protéger de la foudre, comme dans les Pyrénées, où une couronne de laurier peut être salvatrice. Comme toutes les légendes, l'origine provient d'une histoire transmise jusqu'à nous. Ainsi, on raconte que la belle Daphné, fille du fleuve Peneus, préférant sa vertu à l'amour que lui porte Apollon, s'enfuit, apeurée par son élan enflammé. Alors qu'il la rattrape, elle invoque son père, qui la transforme alors en laurier. Éploré, Apollon exprime cette complainte traduite d'Ovide par saint Ange au XVIIIe siècle. Puisque du ciel, la volonté jalouse ne permet pas que tu sois mon épouse, sois mon arbre du moins, que ton feuillage heureux enlace mon carquois, mon arc et mes cheveux. Au mur du Capitole, à ces brillantes fêtes où Rome étalera ses nombreuses conquêtes, tu seras des vainqueurs, l'ornement et le prix. Tes rameaux respectés des foudres ennemies du palais des Césars protégeront l'entrée. Et, comme de mon front la jeunesse sacrée n'éprouvera jamais les injures du temps, que ta feuille conserve un éternel printemps. Dans les cérémonies religieuses, le laurier entre dans leur mystère et les feuilles s'utilisent comme un instrument de divination. Si, jetée au feu, elle rendait beaucoup de bruit, c'était bon présage. Si au contraire, elle ne pétillait point du tout, c'était un signe funeste. Veut-on avoir des songes favorables? On place les feuilles de cet arbre sous le chevet du lit. De nombreuses expressions sont nées de ce pouvoir, comme couronner de laurier pour encenser une personne qui réussit un examen ou décroche un concours. s'endormir sur ses lauriers pour désigner une personne qui se contente d'un premier succès et cesse ses efforts pour en recueillir d'autres. Se reposer sur ses lauriers pour jouir d'un repos mérité après de grands et nombreux succès. Flétrir ses lauriers pour souiller sa gloire ou encore cueillir des lauriers lorsque l'on remporte des victoires. Toutes ces histoires autour du laurier m'ont donné faim. Allons retrouver Marie dans sa chronique « Enherbez-vous » que nous allons écouter de suite pour parler cuisine.
Bonjour et bienvenue dans l'émission. Je vous souhaite une belle année. Aujourd'hui, nous allons parler du laurier sauce, aussi appelé laurier noble. À ne pas confondre avec le laurier palme qui est toxique. Aujourd'hui, nous allons voir deux recettes. Le laurier possède de nombreuses vertus. Nos grands-mères l'utilisaient beaucoup en infusion. Il aide à soutenir la digestion. Grâce à ses effets relaxants, il calme l'anxiété. Mais avant de vous partager l'excellente recette de pâté de foie de volaille de ma mère, je vous propose une autre recette simple et rapide. Un bouillon à base de laurier. Prenez une casserole, ajoutez 1 litre d'eau, un oignon piqué de 3 clous de girofle, une feuille de laurier, un blanc de poireau et une carotte. Vous pouvez rajouter une petite pincée de gros sel. Laissez cuire 15 à 20 minutes. À déguster chaud pour vos soirées d'hiver. Vous pouvez bien sûr consommer les légumes. Ce bouillon est la base de beaucoup de plats, comme les saucisses au chaud ou la cuisson des lentilles. C'est au tour maintenant du pâté de foie de volaille. Pour cela, vous aurez besoin d'une terrine en terre avec un couvercle pour accueillir un pâté de 2 kg. Nous aurons besoin de 700 g de foie de volaille, 1 kg de gorge de porc hachée, du poivre, du sel, du 4 épices, du porto, 5 feuilles de laurier et 8 clous de girofle. Pour cela, nous allons commencer la recette par utiliser un grand saladier où nous allons déposer la gorge de porc haché. Nous allons mixer les 700 g de foie de volaille dans un robot que nous allons incorporer à la gorge. Nous allons utiliser 3 g de poivre et 17 g de sel que nous allons ajouter à cette préparation, ainsi que 4 cuillères à café de 4 épices. Ajoutez par-dessus 4 cuillères à soupe de porto, mélangez le tout de manière homogène et le remplir dans notre terrine. Bien tasser l'ensemble, ajoutez par-dessus 8 clous de girofle que nous allons piquer de manière aléatoire et 5 feuilles de laurier par-dessus. Fermez avec le couvercle, mettre au réfrigérateur une nuit. Le lendemain, préchauffez le four à 210 degrés, thermostat 7. Cuire le pâté pendant 1 heure. Au bout des 45 minutes, nous allons pouvoir rajouter 2 cuillères à soupe de porto afin de finir la cuisson pendant 15 minutes. Le pâté sera prêt à manger froid et à garder au réfrigérateur pendant 4 à 5 jours. Et voici, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon appétit. À bientôt!
Le laurier est une plante médicinale et culinaire très prisée des humains, considérée par les médecins comme une panacée universelle. Appelé laurier sauce, son feuillage très odorant parfume de nombreux plats partout sur la planète. La période de récolte des feuilles s'effectue en plein été, alors que celle des fruits a lieu à l'automne. Une fois séchées dans une ambiance chaude et aérée, on les consomme en infusion ou associés avec le thym, le persil ou l'ail dans les plats de viande et de poisson, ce qui les rend plus digestes. Toutes les parties du laurier sont aromatiques, y compris son bois. De nombreuses molécules lui confèrent des propriétés antiseptiques, diurétiques, stomatiques et expectorantes. En herboristerie, sa polyvalence lui permet de soulager les troubles digestifs, intestinaux, ainsi que des infections urinaires et celles de la sphère ORL. En usage externe, une huile de massage fabriquée à partir des baies atténue les douleurs liées aux règles, au rhumatisme et aux crampes. L'utilisation la plus ancienne et la plus symbolique reste la confection du savon aux huiles d'olive et de laurier, la spécialité la plus célèbre de la ville d'Alep, située en Syrie. Le savon d'Alep a été rapporté par les croisés, enchantés par la découverte des bains orientaux, eux-mêmes hérités des antiques thermes romains. Plus récemment, ce savon artisanal et naturel est devenu à la mode pour la toilette et le soin de cheveux. L'huile de laurier entre dans la composition de moult recettes de baumes efficaces pour soulager les articulations douloureuses et autres lumbagos. Dans les campagnes, le laurier s'utilise pour repousser mouches et taons, notamment sur les animaux. Je vous propose de terminer cette émission en poésie avec « J'aime le vert laurier » de Étienne Jodel, écrit en 1574. J'aime le vert laurier dont l'hiver ni la glace n'effacent la verdeur en tout victorieuse, montrant l'éternité à jamais bienheureuse que le temps ni la mort ne change ni efface. J'aime du haut aussi la toujours verte face, les poignants aiguillons de sa feuille épineuse. J'aime le lierre aussi et sa branche amoureuse qui le chêne ou le mur étroitement embrasse. J'aime bien tous ces trois qui toujours verts ressemblent aux pensées immortelles qui devant moi s'assemblent, de toi que nuit et jour idolâtre j'adore. Dans ma plaie et pointure, et le nœud qui me serre, est plus verte et poignante et plus étroit encore que n'est le vert laurier, ni le houx, ni le lierre. Cette émission est terminée. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Toute l'équipe du Plantis vous donne rendez-vous très bientôt pour parler de la cardamine des prés. Portez-vous bien et à très vite.